Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 104, Daf Kuf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
À Marley, et dans ces conditions, le propriétaire peut dire à son exploitant, il baille l'arc d'un touillet vedavla. C'est vrai que le conduit d'eau qui amenait au champ s'est asséché, mais tu devais te débrouiller pour la porter avec des seaux. Amar Rav Papa. Rav Papa a précisé, et c'est très important, Hanetarte Matnit, Yata Kamaita, les deux premières Mishnayot de ce Perek, Maskachatla Ben Bechachranuta, Ben Bekablanuta. Elles peuvent s'appliquer aussi bien dans le cas d'un fermier que dans le cas d'un métayer. Mikan Vaelach, mais dans la suite du Perek, les Ita Bekablanuta, l'Eta Bechachranuta. Les dinim, les Mishnayot qui s'appliquent au cas de fermage ne s'applique pas au cas de métayage et inversement, ou de ita bechach ranuta, et celle qui s'applique à un métayer, l'état de kablanuta, ne concerne pas le cas d'un fermier. Revenons à la suite de la Mishnah. Imamarlo, si le propriétaire lui a dit, chachor lis de betashlachin ze, je te donne en exploitation ce champ qui comporte une source, ou un cours d'eau, etc. La Gemara demande vermaï. Là, c'est également étonnant que parce qu'il a dit ce champ qui comporte une source, Bet Ashlachin, qu'ils doivent lui payer moins lorsqu'il y a eu assèchement. Les malais, le propriétaire pourrait lui dire, Shma Be'alma Amrilach, je ne t'ai pas dit qu'il y avait une source. Je dis simplement que le nom de cet endroit, c'est le champ Bet Ashlachin, si on peut traduire le champ de la source. Milotania, en effet, n'avons-nous pas appris dans une braïta, Haomer la chavero bet kor afar, je te vends un terrain dans lequel on peut planter une certaine quantité, betkor, de céréales. Afalpichen bo et la letter, même s'il n'y a qu'un letter qui est la moitié d'un corps. Donc apparemment le champ n'a que la moitié de la superficie qui était prononcée, qui était dite d'après ce que les propos du vendeur, igio. La vente reste valable, tant pis pour lui. C'est l'Omacharlo et la Shema. Ce qu'il lui a vendu en disant que ce champ est un champ qui s'appelle Betkour, on aurait pu dire un hectare, hein, simplement pour prendre une comparaison, je ne dis pas qu'un hectare produira un Betkour, mais pour, il a dit je te vends le champ d'un hectare, et il s'avère que c'est un champ qui n'a qu'un demi-hectare. Alors, la Braïta a dit, même dans ce cas-là, la vente est valable, Vehu de Mitkere Betkour, à condition qu'effectivement le nom de ce champ, ce soit le champ de l'hectare. Alors dans le cas de notre Braïta, il se pourrait par exemple qu'il avait dans le temps une certaine rentabilité et que maintenant il ne rend plus autant. Autre exemple donné par la Braïta, Karma Animocher Lecha, je te vends une vigne, parce que normalement Kerem c'est une plantation de vigne, Fapishen Bokfanim, même s'il n'y a pas de raisin là-bas, sur ce terrain, Igio, la vente est valable. Shelo Macharlo Elashma, c'est simplement parce que ce terrain s'appelait la vigne, Kerem. Alors, quand est-ce que la Braïta dit que la vente est valable malgré le fait qu'il n'y a pas de plan de vigne là-bas, ou de mitkere karma? Il faut qu'effectivement les gens appellent la vigne. C'est le nom que les gens lui donnent. De même, nous trouvons encore dans la Braïta, pardes animocher locha, je te vends un verger. Apalpiche enbo rimonim, même si le terrain qu'il lui vend, il n'y a pas dedans de grenade, ou de grenadier, igio, la vente est valable. C'est l'omacharlo lashma, parce qu'il lui a vendu un terrain qui s'appelait le verger. Vehu de mitkere par dessa, à la condition qu'effectivement, tout le monde appelle ce champ le verger. La Gemara termine encore d'amener une preuve à son hypothèse. Alma, donc, à Marley, voyons que s'il lui a dit, Shma be Alma Amrilach, moi je ne t'ai pas garanti qu'il y avait là-bas, ni des arbres, ni de la vigne, ni telle et telle productivité. Shma be Alma Amrilach, je t'ai dit le nom du terrain. Achanami, ici, chez nous également, Nemale, le propriétaire pourrait lui dire, Shma Be'alma Amrilach, je t'ai simplement dit que cet endroit s'appelle Bet Ashlachin, et toi tu as sous-entendu qu'il y avait là-bas une source, mais moi je ne te l'ai pas dit, j'ai simplement fait allusion au nom qu'on lui donnait. Et donc il y a cette question, Amar Shmuel, Shmuel a répondu, l'Akashia, il n'y a pas de contradiction entre la Braïta et notre Mishnah. Ah, Ve'amarle, Markir le Choker, dans un cas, il s'agit, c'est le cas de la Braïta, que celui qui met en exploitation le champ a dit à son fermier, Ha, de Amarle, Choker le Markir. Et le deuxième cas, le cas de notre Mishnah, c'est au contraire le fermier qui a dit à celui qui est propriétaire du champ, tu vas me mettre à disposition, en tant que fermier, un sang qui est Bet Hashlachin. Et dans ce cas-là, le propriétaire ne peut pas se retrancher derrière le nom. La Gemara va expliquer la différence. Amarle Markir le Choker, si c'est le propriétaire qui dit ça à l'exploitant, Shma Be'alma Amarle, il peut toujours avancer qu'il n'a fait que donner le nom qui était utilisé pour ce terrain, même si ça ne correspond pas à la réalité. Amarle Choker le Markir, mais si c'est le fermier qui a dit au propriétaire, je veux un champ qui soit Bet Hashlachin, Kpeda, c'est sûr qu'il est absolument exigeant quant à l'existence effective d'une source d'eau pour faciliter l'irrigation. La Gemara donne une autre possibilité de différencier entre la Mishnah et entre la Braïta. C'est Ravina. Ravina dit, idividi. On peut dire qu'aussi bien la Mishnah que la Braïta parle de Amar le Markir le Choker, que c'est le propriétaire du champ qui parlait au fermier. Par contre, notre Mishnah pense que le propriétaire ne peut pas dire, c'était simplement une façon de désigner. En effet, Mideka Amarze, puisqu'il dit ce champ-ci, c'est-à-dire que tous les deux se tenaient sur le champ, c'est ce que dit la Gemara Michlal, donc de Ka'eb Gava Askinan, il se trouve sur le champ. Bet Ashlachin, la Malel Mema, qu'était-il nécessaire dans ce cas-là de lui dire c'est un champ d'irrigation, alors qu'ils sont au milieu du champ? Certainement de Kaamarle, Betashlachin, qui de Kaimashta. Il s'agit de ce champ-ci, qui est un champ d'irrigation, donc un champ qui comporte une source, comme on peut le voir maintenant. Autrement dit, il dit au fermier que la raison pour laquelle il demande un loyer d'un certain montant, c'est pour un champ qui comporte une source. Et c'est pourquoi la Mishnah a raison de dire que si cette source se dessèche, à ce moment-là, il a le droit de diminuer du montant, du fermage, du loyer. Même chose pour l'arbre qui aurait été détruit. Nous abordons la Mishnah suivante qui va parler du cas d'un haris, c'est-à-dire d'un métayer, et uniquement de ce cas-là d'ailleurs, comme nous l'avions annoncé, lorsque celui-ci n'a pas travaillé sur le champ, il ne l'a pas labouré, il ne l'a pas semé, que va-t-il se passer? Alors commençons le texte de la Mishnah. Hamekabel sadeh mechavero veovira, celui qui a pris en métayage un champ d'un autre, et il l'a laissé inculte. Shamin ota kama reuya la asot. Le beddin qui aurait été saisi par le propriétaire fera une estimation de ce que ce champ était capable de produire, sous-entendu si on l'avait travaillé correctement, et le métayer notenlo, le métayer devra donner la part du champ, telle de la récolte, c'est-à-dire telle qu'elle revient au propriétaire. Chez kar kotevlo, en effet, l'usager que le métayer écrive ainsi, sous-entendu dans le contrat, imovir velo avid, asalem metva. Si je le laisse inculte et que je ne le travaille pas, je devrais payer conformément à la meilleure récolte possible dans un champ semblable. Voilà pour la Mishnah. La Gemara va élargir le dîne de la Mishnah. Rabbi Meir a yadoresh le son idiot. Rabbi Meir avait l'habitude d'interpréter des expressions, même qui ne sont pas des expressions que les Chachamim ont établies. De Tania, comme on nous enseigne dans une Braïta, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, et cette Braïta évidemment fait allusion au même cas que notre Mishnah, Imovir velo avid ashalem emetva. Cette expression, si je le laisse en friche et que je ne travaille pas, je paierai au plus fort, cette expression étant retenue par la Mishnah, donc on voit que ce lachon idiot, ce langage commun, est pris en compte par les Chachamim. La Gemara va amener d'autres Tanaïm qui donnent au langage commun une valeur, notamment lorsqu'il figure dans les contrats. Rabbi Yehuda yadoresh le shon idiot. Rabbi Yehuda interprétait le langage commun, comme on a appris dans une Braïta, de Tania, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Adam, mevi korban ashir alishto. Si un homme est riche et qu'il a une femme qui l'est moins, sa femme ayant accouché doit apporter un sacrifice, et le sacrifice dépend de la richesse de la personne qui doit l'apporter, suivant qu'il soit très pauvre, pauvre ou riche, il amènera un corban différent. Or la femme n'est pas riche et le mari est riche. Alors, cette braïta dit, le mari qui est riche est obligé d'apporter pour sa femme, même si celle-ci n'est pas riche, un corban qui est celui qui coûte le plus cher. Vechen, kol korban ve korban si chayevet. Il en va de même pour n'importe quel autre korban que la femme doit apporter. Le mari est obligé de le faire d'après sa fortune et non après la fortune de la femme. Chez Ken, Kotev, là, en effet, l'habitude est que le mari écrive dans la Ktouva, Acharayut de Hitler, Alay, je prends sur moi toutes les obligations et des dettes auxquelles tu t'es engagé, Min Kadamt Dena, même avant notre mariage. Et étant donné qu'il a pris cet engagement sous cette forme, ça devient une obligation non plus de la femme mais du mari, et le mari est obligé de les assumer suivant sa propre fortune et non pas suivant celle de sa femme, quand bien même celle-ci serait, notamment avant son mariage, très dépourvue. Hillel Azaken et Adoresh Lashon Ediot. De même, nous trouvons que Hillel l'Ancien interprétait les expressions communes de Tania, comme on nous enseigne une Breita, Anche Alexandria, Hayumekachin et Nshotem. Les habitants d'Alexandrie avaient l'habitude de donner des kiddushin à leurs épouses. Les kiddushin, c'est un premier stade à partir duquel la femme est mariée, mais elle ne vit pas encore avec son époux. Ou bishat que dit Satan la choupa, et au moment où il les faisait entrer sous la choupa, et à ce moment-là, ils commencent leur vie commune, ba'in acherim bechotfin otam, d'autres personnes venaient et kidnappaient ses épouses mehen de leur mari. Et donc il les épousait. Bikshu chachamim la'asot benehem mamzerim. Les chachamim ont pensé que les enfants qui naissaient de ce deuxième mariage devaient être considérés comme ayant le statut de mamzer, c'est-à-dire provenant d'une union adultère, puisqu'il y avait eu des kiddushin au préalable avec le premier mari victime du kidnapping. Amar le'enil la'zaken. Hillel, l'ancien, a dit à ses fils, avi uli k'tuvatim mechem. Apportez-moi la ketouva de vos mères. Aviolok tuvatiman, ils lui ont apporté la ketouva de leur mère. Umatsa shekatuv ba'en, il elle a vu qu'il y était écrit dans ses ketouvot d'Alexandrie, li chesheti kansi lechupa haveli leintu. Il y avait une formule inhabituelle. Lorsque tu pénétreras sous la choupa, tu seras mon épouse. Velo asu benem manzerim. Et grâce à cette interprétation littéral de cette expression inhabituelle qui s'appelle donc le son idiot, Hillel leur a dit vos fils ne sont pas des mamzerim, étant donné que les kiddushin avaient été prévus uniquement au moment où ils rentraient sous la choupa et que le kidnapping s'était produit juste avant qu'elles ne puissent entrer sous la choupa, et donc le premier mariage n'existait pas et les enfants qui naissent du deuxième ont un statut parfaitement normal. Autre exemple de Rishat Lashon Ediot, où on va interpréter des expressions communes qui n'émanent pas des Chachamim. Rabbi Yoshua ben Kocha et Adoresh Lashon Ediot. Rabbi Yoshua ben Kocha interprétait des expressions communes. De Tania, comme on apprend dans une Braïta. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha dit Amalve Travero lo yemashkenenu. Celui qui prête de l'argent à son prochain n'a pas le droit de prendre un gage Yoter Mechovo qui soit d'une valeur supérieure au montant du prêt, et donc de la dette. Pour quelle raison? L'Agmara nous le dit, chez Karkotevlo, voilà l'habitude que l'on avait de faire écrire par l'emprunteur la formule suivante, Tashlum Tadeitlach Alay Kol Kabal Dechi. Il s'agit d'un cas où le prêteur rend à l'emprunteur, donc le malvé rend au lové le mashkon, le gage, et celui-ci va le garder un certain temps. Le lové écrit, la dette que j'ai à ton égard, kol kabel dichi, elle est équivalente à la valeur de ce mashkon, de ce gage. Donc, si le gage valait plus que la dette, cela voudrait dire que le prêteur a entre les mains un papier par lequel il pourrait se faire payer une somme supérieure à ce qu'il a prêté. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, utiliser un gage d'une valeur supérieure au prêt, ce qui montre que Rabbi Yoshua ben Kocha également interprétait ce Lashon Ediot, cette expression commune. La Gemara comprend à cette occasion qu'on avait l'habitude d'écrire un shtar avec une formule telle que le malvé pouvait également récupérer le mashkon, même chez les héritiers du lové, c'est-à-dire de celui qui lui avait emprunté de l'argent. Alors que la halakha est que lorsqu'il y a des enfants, que l'emprunteur est décédé, le prêteur n'a pas le droit de se faire payer sa dette à partir d'autres biens meubles qui font partie de l'héritage. Ceci pose un problème à la Gemara qu'elle va expliquer dans les termes suivants. Tama de Katavle Achi, la raison pour laquelle Rabbi Yoshua ben Kocha dit Sedin, c'est à cause de la formule qui est écrite. Haïlo Katavle Achi, donc si cette formule n'était pas écrite par le Lové, la Kanya, le Malvé, le prêteur, n'aurait pas de droit sur le Mashkon et ne pourrait pas le prélever de ses héritiers éventuels. Vehama Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, Mishkeno, Veshivlo, Hamashkon, ou Met, Somtom et Algabe Banav. Si le prêteur a reçu un gage de l'emprunteur et qu'ensuite il le lui est restitué afin que l'emprunteur puisse se servir de son gage et que le lové est mort, c'est-à-dire l'emprunteur est mort, Somtom et Algabe Banav, le prêteur a le droit de venir se saisir presque par la force de ce gage qui est entre les mains des héritiers, afin de pouvoir se faire rembourser sa dette. On voit donc que, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, le prêteur, le malvé, peut récupérer sa dette, même s'il n'a pas d'écrit. Et donc, ce n'est pas pour cette raison qu'on écrivait le shtar. La Gemara va expliquer la raison réelle de l'écriture du shtar, à Hanektiva le Geraon, le fait qu'on ait écrit ce shtar.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et donc, ce n'est pas pour cette raison qu'on écrivait le shtar. La Guémara va expliquer la raison réelle de l'écriture du shtar, à Hanektiva le Geraon, le fait qu'on ait écrit ce shtar par lequel l'emprunteur se s'engage à repayer à celui qui a prêté l'argent la valeur du mashkon, c'est pour le cas de perte. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépréciation de la valeur du mashkon à cause de l'utilisation qu'en a faite le lové, l'emprunteur. Il devra payer non seulement la valeur du mashkon, mais également de ses autres biens pour compenser la perte de valeur du gage due à son utilisation. Autrement dit, la différence entre la valeur du gage au moment où on a écrit le shtar, et à ce moment-là, évidemment, c'était exactement égal au montant de la dette, et la valeur actuelle du gage qui a pu être diminué en raison de son emploi. Et si on n'avait pas écrit cette expression dans le shtar, la perte aurait été aux dépens du prêteur.
Nous venons de tourner la page, et nous sommes donc Daf Kouf Dalet, à Moudbet 104, deuxième feuille. Nous continuons à voir des cas où on interprète des expressions qui étaient inscrites. Rabbi Yossi Ayadores le Sodedeot. Rabbi Yossi avait l'habitude d'interpréter des expressions communes de Tania comme on enseigne une Braïta. Rabbi Yossi Omer. Makom Shenagula Sot Ktuva Milve, Gove Milve. Dans les endroits où on a l'habitude d'écrire dans la Ktuva exactement le montant de la dot que le père donne à sa fille et que le mari doit lui rendre en cas de divorce, eh bien, le mari a donc le droit de recevoir exactement l'intégralité de cette somme, comme s'il s'agissait d'un prêt. L'irfol, mais si on a l'habitude, pour le kavod de la famille de la Kala, d'inscrire une valeur qui est le double de la valeur réelle de la dot, dans ce cas-là, le mari, gove mertsa, il ne touchera de son beau-père que la moitié de la somme qui est inscrite dans la ktouva. La Gemara rapporte un minag comparable, Nehar Belae, Gavu, Tilta. Les habitants de Nahar Bal avaient l'habitude de ne faire payer au père de la Kala que le tiers de la somme qui était inscrite dans la Ktuva, pour la bonne raison qu'on avait l'habitude de multiplier par 3 la valeur réelle de la dot. La Gemara apporte une autre tradition qui a priori a l'air de contredire ce que nous venons de dire. Meremar, Magbe, Nami, Shvacha. Meremar, dans son Beddin, il faisait payer au père de la Kala l'intégralité de la somme qui était marquée dans la Ktuva, alors que dans la ville où il était, on avait l'habitude de doubler la valeur réelle de la dot. Et la Gemara ne comprend pas et s'interroge. Amarle Ravina l'Emremar. Ravina a objecté à Emremar. Le Hatania, pourtant une Braïta nous a enseigné, l'Irpol, Gove Merza, dans les endroits où on a l'habitude de doubler la valeur réelle de la somme, le mari ne touche que la moitié de ce qui est inscrit. Et sous-entendu, comment est-ce que tu peux exiger que le Khatan reçoive la totalité de la somme? Réponse de Merimar, la kashia, il n'y a pas de contradiction. Ah, le cas qui me concerne, de Kanemine, j'exige qu'on paye la totalité parce qu'il y a eu un kinyan, c'est-à-dire une acquisition formelle, probablement dans le kinyan soudar, où on soudève un tissu qui appartient à l'un des deux pour s'engager formellement sur la somme. Et dans ce cas-là, malgré le minag, c'est la totalité de la somme qui est acquise au mari. Ah, tandis que le cas de la braïta, de la kané, c'est dans le cas où on n'a pas fait ce kinyan. Et par conséquent, on suit le minag et on ne touche que la moitié. Ravina meshabach vekativ livrate. Ravina, il a doublé la valeur de la dot qu'il avait écrit pour sa fille. Amroulé, la famille du Khatan lui a dit, nikne mine de mort. Faisons un kinyan pour acquérir la nedunia que vous lui avez accordée, qui était au double de la valeur. Amar lehu, il leur a répondu, imikna lomirpal. Si on fait un kinyan, je ne peux pas mettre le double. Imirpal, et si je fais le double, lomikna, je n'accepte pas de le faire acquérir. Et comme il avait fait le double, il a refusé probablement de faire un kinyan là-dessus. La Gemara nous raconte une histoire dans laquelle on va voir que cette situation crée des ambiguïtés. En effet, il y avait un homme qui a dit à son entourage, il était sur le point de mourir, d'après ce qu'explique Rashi, et il parlait de la dot de sa fille, Havula Arba Mea Zuzé. Donc Ahou Gavra, c'est un homme d'Amarlo qui a dit aux gens, Havula Arba Mea Zuzé, donnez 400 zouz, livrati à ma fille, biktuvata, dans sa ketuva. Et étant donné que c'est un endroit où on a l'habitude de doubler l'estimation de la valeur de la dot, la Gemara se demande quelle était l'intention du père. Shalach Rav Acha Bered Rav Avia, le Kamed Rav Ashi. Rav Acha, le fils de Rav Avia, a envoyé la question suivante devant Rav Ashi. Arba Mea de Inun Tamnemea, s'agit-il que le père voulait donner à sa fille 400 zouz et que donc il fallait écrire 800 zouz? Ou bien Arba Mea Zouzé de Inun Matan, ou bien s'agit-il de 400 zouz qui n'en sont que 200? C'est-à-dire qu'en fait, il voulait qu'on écrive 400 en telle sorte que finalement la valeur de la dot soit de 200. Amar Ravashi, Ravashi lui a répondu, Chazinan, nous allons voir. I Amar Havula, si le père a dit, donnez-lui. Arba Mea Zuzé, Deinun Tamnemea. Son intention était qu'on lui donne effectivement 400 zouz qui sont inscrits comme en représentant 800. I Amar Ktuvula. Mais si le père a dit « Écrivez-lui dans la Ktuva 400 zouz », alors son intention était que leur valeur effective ne soit que de Inun Matan, ne soit que de 200. Il y a une autre version dans la réponse de Ravashi. « Ika de Amré », d'autres disent « Amar Ravashi », voilà ce que Ravashi a dit. « Chazinan », voyons. « I Amar Liktuvata », avec un Lamed. S'il a dit « Donner 400 zouz pour sa Ktuva », il s'agit donc de 400 zouz qui sont inscrits comme étant 800, parce que c'est la somme qui lui sera donnée pour sa dot. Ve i amar biktuvata, mais s'il a dit 400 zouz dans sa ketuva, son intention était arba mea zouzé, 400 zouz inscrits, de inun matan, qui en fait n'en représente que, en valeur réelle, 200. La Gemara, finalement, n'est pas d'accord avec Ravashi. Ve lo i, ce n'est pas comme cela que l'on fait. Loshna de amar liktuvata. Peu importe qu'il ait dit liktuvata avec un lamed, veloshna de amar biktuvata, ou qu'il ait dit biktuvata avec un bet, c'est-à-dire peu importe s'il a dit pour sa ketuva, ou s'il a dit dans sa ketuva, arba mea zuzé de inun matan. Dans tous les cas, nous lui donnerons 212, puisqu'on aura inscrit 400, ad de amar avula stama, sauf s'il lui dit donnez-lui 400, sans autre précision et sans parler de la ketuva. Donc s'il lui dit 400 pour la Ktuva, dans la Ktuva, on inscrira 400 et ne recevra que 200. Mais s'il lui dit donnez-lui 400, dans ce cas-là, elle recevra effectivement les 400 et on inscrira dans la Ktuva 800. Nous retournons maintenant au problème des métayages. Aou gavre de kabel aram et chavre. Nous revenons à un cas qui concerne le métayage. Il y avait un métayer qui a reçu une terre de son propriétaire et il lui avait écrit la clause suivante. I movarnala yaibna lach alfezouze. Si je laisse la terre en friche, je te donnerai 1000 zouz, qui est une somme extrêmement élevée. Ovirtilta. Finalement, il a laissé en friche un tiers du terrain. Amre Nahardae, les habitants de Narda ont dit, ou les Dayanim de Narda ont dit, Dinahu de Yevlet Talat Mea, Utlatin, Utlata Vetilta. Le jugement correct, c'est de l'obliger à payer 333 zouzim et un tiers, c'est-à-dire un tiers de la somme qu'il s'était engagé à payer dans le cas où il aurait laissé en friche la totalité du champ. Rava Amar, mais Rava a dit non, cette promesse, elle ne compte pas. Asmartaï, étant donné que c'est une somme exagérée, ça veut dire qu'il était sûr qu'il allait le cultiver, qu'il n'était pas réellement prêt à payer une telle compensation. Et Asmarta Lakanya. Et lorsque une promesse n'est qu'une Asmarta, n'est que quelque chose d'exagéré, ça n'a pas de valeur effective. La Gemara va objecter à Rava. Ou le Rava Maïshena Mehaditnan. D'après Rava, en quoi est-ce différent de ce qu'on a appris dans notre Mishnah? Imovir velo avid. Si je laisse en friche et que je ne travaille pas la terre, je payerai la meilleure valeur. L'Agmara répond, Atam lakagazim. Là-bas, en disant la meilleure valeur, il n'y a aucune exagération par rapport à la réalité de la perte que va subir le propriétaire du champ. Haha, tandis qu'ici, Kivantekamar Miltayeterta, étant donné qu'il a donné une estimation très exagérée, Guzma Bealmaou de Kagazim, c'est quelque chose qui est exagéré et qui n'a pas de valeur. On nous cite un autre cas d'un métayer qui n'a pas tenu sa parole. Aou Gavra de Kabelara le Shumcheme. Quelqu'un avait pris l'engagement de cultiver une terre pour y faire pousser des grains de sésame. Et Rashi nous dit que les grains de sésame, normalement, demandent beaucoup de travail, c'est fatigant à faire, ça exige beaucoup de la terre aussi, ça épuise les terrains, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Ouzra Achite. Le métayer n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, il l'a semé avec du blé. Avda chite que sum semé. Mais, par chance, la valeur de ce blé était équivalente à la valeur des sésames qui auraient dû être plantés. Ce qui fait qu'en plus, il y a eu une économie sur le terrain, parce que le terrain a été moins épuisé par la récolte de blé qu'elle ne l'aurait été par celle des grains de sésame. Et alors, on va se poser la question de savoir s'il a le droit de recevoir ce supplément de valeur du terrain qui a été moins épuisé qu'il n'aurait dû l'être. Ça va, Rav Kahana le Mémar. Rav Kahana pensait de dire Menakele Karsha Dehara. Le propriétaire doit déduire de la part de récolte qu'il reçoit la valeur de ce que le terrain n'a pas perdu en étant planté en blé au lieu de sésame. C'est-à-dire qu'en fait, le terrain, à la fin de la saison, vaut plus que s'il avait été épuisé par la plantation de sésame. Et le Rav Kahana pensait que cette économie revenait au métayer. Amalé Ravashi de Rav Kahana, mais Ravashi a dit Rav Kahana, Amre Inche, les gens ont l'habitude de dire, Karsha Av'a Velolikrosh Mara, il vaut mieux épuiser la terre que d'épuiser son propriétaire. C'est-à-dire il aurait mieux valu planter des sésames et ne pas faire que le propriétaire du terrain perde une partie de ce qu'il avait droit. Et par conséquent, il aura le droit de recevoir en proportion des blés, la même proportion que ce qu'il aurait reçu des grains de sésame, contrairement à l'opinion de Rav Kahana. Un autre cas semblable, à Ougavra de Kabelara de Shumcheme. Un métayer s'était engagé à travailler une terre pour y planter des grains de sésame, Uzra'a Hite. Et il l'a planté avec du blé. Avdachitet fait min soumchemé. La valeur du blé qui a été poussé s'est trouvée être supérieure à ceux des sésames attendus. Ça va, Ravina le même Maria Evle, Shivra de Beni Beni. Ravina pensait que le métayer avait droit aux bénéfices supplémentaires. Shivra, le supplément de Beni Beni entre ce qui était attendu en sésame et ce qui a été reçu effectivement en blé. Amarle Rav Acha midifte le Ravina. Rav Acha de Difte a dit à Ravina, Atu, ou Ashbar, Zara lo hashbecha. Est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement le métayer qui a produit ce bénéfice et pas la terre? Sous-entendu, la terre également. Et donc le propriétaire a le droit de recevoir en proportion des blés autant que ce qu'il a reçu avec les sésames, y compris pour la partie supplémentaire. Passons maintenant à l'étude d'autres situations où il y a plusieurs personnes qui sont associées dans des bénéfices ou dans des pertes, sans que cela ait des liens avec l'agriculture. Amré Nardae, les habitants de Nardea ou les Dayanim de Nardea disaient Haïska, une affaire, c'est-à-dire lorsqu'un homme reçoit de la marchandise du propriétaire de la marchandise qui lui demande de la transporter à un endroit où elle peut être vendue avec un bénéfice, et qu'il y aura un partage des bénéfices entre le propriétaire de la marchandise et celui qui s'est occupé de la faire fructifier en la transportant. Palga milvé ou palga picadon. Une moitié de la marchandise est considérée comme prêtée, et l'autre moitié de la marchandise est considérée comme en dépôt. La différence entre ces deux statuts, c'est que ce qui est prêté, celui qui l'a reçu, en est responsable même s'il lui arrive un accident. Tandis que ce qui est en dépôt, celui qui possède un dépôt, il a le statut de Shomer Chinam, de gardien non appointé, et il n'est pas tenu de le rembourser dans le cas où il y a un accident et qu'elle disparaisse par accident. Avud Rabbanan Milta de Nechalel Alove, Nechalel Amalve. La Gemara explique que les Chachamim ont institué cela, qui est une chose qui est agréable à la fois pour celui qui a emprunté, et qui est agréable également à celui qui a mis à la disposition la marchandise. Hashtad Amrinan Palga Milve, les Bene Nardea ont ajouté. Maintenant que nous disons que la moitié de la marchandise est considérée comme un prêt, Ibael Mishtebe Shikha. Si celui qui l'a reçu veut le vendre et acheter de l'alcool pour le boire, c'est-à-dire s'il veut le dépenser pour ses propres besoins, Shapir Dame, cela est permis pour la moitié de la valeur de la marchandise. Mais il y a une opinion différente. Rava Amar, Rava dit non. Le Hachri Karoule Iska, pourquoi est-ce qu'on appelle cette marchandise Iska, une affaire. De Amarle, parce que le propriétaire peut dire à celui qui va la mettre en vente, à celui qui l'a reçu en dépôt pour la vendre, qui a Avinalach le Iasukebe. Lorsque je t'ai donné cette marchandise, la totalité, c'est pour que tu fasses du commerce avec et que tu fasses des bénéfices. Velo le Mishtebe Shikra, mais pas pour que tu ailles boire de l'alcool. La Gemara va nous parler d'un autre cas concernant ces situations de Iska. Amar Ravidi Baravin. Ravidi Baravin a dit « Ve'im met na'aseh et altelin etzel banav » Si celui qui a emprunté cette marchandise disparaît, elle est considérée auprès de ses fils, qui sont ses héritiers, comme des biens meubles, c'est-à-dire qui ne sont pas perceptibles par n'importe quel créancier, y compris par l'ancien propriétaire. C'est l'avis de Ravidi Barabin. Rava Amar, comme précédemment, Rava dit non. L'Achri Karuleska, pourquoi appelle-t-on ça une affaire? Parce que c'est quelque chose qui va perdurer. Des immet, car si celui qui l'a reçu en dépôt pour faire du commerce avec disparaît, l'oye assez metaltini et tel banal. Ça n'aura pas le statut de n'importe quel bien meuble des héritiers desquels les créanciers ne peuvent pas se payer. Au contraire, étant donné qu'il ne peut pas l'utiliser pour ses propres dépenses, il ne peut pas acheter de l'alcool avec, comme il le disait précédemment, on considère que l'un des avantages de cette marchandise, c'est qu'elle reste à la disposition de son propriétaire. Et donc, une fois le commerçant décédé, le propriétaire peut venir prioritairement et récupérer sa dette à partir de cette marchandise. Nous sommes pratiquement à la fin de ce Daf Kouf Dalet, et donc la suite à Marava va être considéré comme faisant partie du DAF suivant, le DAF Kouf He 105. Donc nous allons voir Amar Rava, Chada Iska ou Treshtare, Pseda de Malvé. Rava dit, s'il y a une seule marchandise, mais sur deux actes, sur deux contrats séparés, Pseda de Malvé. Cette situation amène le prêteur de la marchandise à des pertes. Treiske Vechatshtara, Pseda de Lové. Et s'il y a deux...
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.